Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour David Engels.
Bonjour Liselotte et très bon lundi matin.
Mais à vous aussi, on est ravis de vous retrouver. On va parler de la guerre en Iran, puisqu'elle semble devenir la pierre d'achoppement de la présidence impériale de Donald Trump. Certains y voient un signe de soumission à Israël, d'autres un combat désintéressé pour la libération des Iraniens d'un régime fondamentaliste. Vous-même, dans un récent article, David Engels, vous venez d'attirer l'attention sur un tout autre aspect. Tous les partis concernés seraient, parfois plus, parfois moins, liés à des attentes apocalyptiques d'une fin des temps imminente et d'espoir messianiste.
Oui, tout à fait. Dans les commentaires médiatiques occidentaux, l'affrontement entre Israël, les États-Unis et l'Iran est souvent présenté comme une lutte entre modernité libérale et fondamentalisme religieux, opposant un Occident supposé défendre des valeurs séculières à une théocratie islamique perçue comme intrinsèquement hostile à ses principes. Alors une telle lecture, si elle possède une certaine efficacité rhétorique, reste cependant très 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 réductrice. Les motivations réelles relèvent largement de la géopolitique classique, comme tout le monde le sait. La volonté d'Israël de préserver une hégémonie militaire régionale et l'intérêt des États-Unis pour le contrôle stratégique des routes maritimes et des équilibres de puissance au Moyen-Orient pèsent bien davantage que la défense abstraite de valeurs occidentales. Par ailleurs, la nature idéologique de la République islamique est souvent simplifiée à l'extrême. Le chiisme, qui constitue le socle doctrinal de l'État iranien, possède une longue tradition historique de coexistence avec le christianisme, le judaïsme, et s'est montré, en comparaison avec certains courants sunnites et pas mal de pays sunnites, relativement peu prosélytes dans l'espace occidental. Alors, cependant, derrière ces considérations stratégiques se profile un élément plus inattendu et rarement discuté, la présence chez des acteurs influents des trois camps d'attente apocalyptique ou millénariste qui confèrent aux événements contemporains une signification eschatologique assez étonnante. Alors commençons par la pensée apocalyptique juive, bien évidemment. Celle-ci plonge ses racines dans la littérature prophétique de la Bible hébraïque où les visions d'une restauration d'Israël et d'un jugement divin final sont étroitement liées au destin du peuple juif. Ces textes ont nourri une attente messianique selon laquelle un roi issu de la lignée de David inaugurera une ère de rédemption et de justice. Le sionisme moderne, né au XIXe siècle, dans un contexte largement séculier, n'avait initialement qu'un objectif politique, créer un État juif capable d'assurer la sécurité et la normalisation du peuple juif. Toutefois, après la création d'Israël en 1948 et surtout après la guerre de 1967, certains courants religieux ont commencé à interpréter ces événements comme des signes d'un processus rédempteur en cours. Dans ces milieux du sionisme religieux, les promesses bibliques concernant la terre d'Israël sont alors souvent lues comme une justification théologique de la souveraineté juive sur l'ensemble du territoire entre le Jourdain et la Méditerranée, voire entre le Nil et l'Euphrate. Des responsables politiques comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir présente ainsi la colonisation juive en Cisjordanie et la souveraineté sur l'ensemble de la terre d'Israël comme un processus historique à portée rédemptrice. Des autorités religieuses influentes, telles que les rabbins Dov Lior et Yitzhak Ginsburg, développent également des lectures messianiques de l'actualité géopolitique, tandis que dans un registre plus indirect, Benjamin Netanyahu recourt assez souvent à un langage biblique qui inscrit les conflits contemporains d'Israël dans un horizon symbolique hérité des récits prophétiques et donc apocalyptiques.
Et qu'en est-il de ce fameux sionisme chrétien dont Tucker Carlson a tant parlé ces dernières semaines ?
Justement, un phénomène particulièrement remarquable est l'alliance, parfois peu visible, mais politiquement très efficace, entre le sionisme religieux israélien et un courant théologique né aux États-Unis qui s'appelle le sionisme chrétien évangélique. Dans cette tradition, issue d'ailleurs du dispensationalisme protestant, une doctrine développée au XIXe siècle dans le monde anglo-saxon, l'histoire est conçue comme une succession d'époques voulues par Dieu et conduisant progressivement vers la phase finale de l'histoire humaine. Dans cette perspective, le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale ne constitue pas seulement un événement politique ou national, mais une condition théologique indispensable à la seconde venue du Christ. Selon cette lecture très littérale des prophéties bibliques, la reconstitution d'un État juif en Terre Sainte, la consolidation de sa souveraineté et les conflits qui l'entourent sont interprétés comme des signes annonciateurs de la dernière étape de l'histoire du monde. Les tensions au Moyen-Orient, les guerres régionales ou les affrontements avec les puissances hostiles à Israël, dans l'Iran évidemment, peuvent ainsi être compris comme les prémices des événements décrits dans l'Apocalypse de Saint Jean, notamment la bataille finale d'Armageddon, qui précéderait le retour du Christ et l'établissement de son règne millénaire. Dans ce cadre, le soutien politique, militaire ou diplomatique à Israël n'est pas seulement perçu comme une position stratégique ou idéologique, mais comme une participation active, voire nécessaire, à l'accomplissement du plan divin. Cette vision religieuse du rôle d'Israël dans l'histoire a trouvé, au cours des dernières décennies, un relais politique particulièrement visible dans certains milieux conservateurs américains. Elle a notamment été renforcée dans l'entourage de Donald Trump, où plusieurs personnalités proches des milieux évangéliques ont exercé une influence notable. Des figures politiques comme Mike Huckabee ou Pete Hegseth défendent régulièrement l'idée que la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la terre biblique, donc du Nil à l'Euphrate, correspond non seulement à un droit historique, mais aussi à l'accomplissement d'une prophétie biblique à portée chrétienne. Dans le même univers religieux, certains prédicateurs évangéliques disposent d'une audience considérable auprès du public américain et défendent également ces prises de position. Des leaders comme John Hagee, fondateur de l'organisation pro-israélienne Christians United for Israel, ou Robert Jeffries, proche conseiller spirituel de Trump, voit dans les crises du Moyen-Orient les signes précurseurs du retour du Christ et de la bataille finale. Leurs sermons et leurs écrits décrivent fréquemment l'histoire contemporaine comme l'accomplissement donc progressif d'une histoire prophétique annoncée dans la Bible. Alors, même si ces croyances ne constituent évidemment pas une doctrine officielle de l'État américain, leur influence politique reste notable, notamment en raison du poids électoral du protestantisme évangélique dans certaines régions des États-Unis. Et dans ce contexte, le soutien inconditionnel à Israël peut parfois être motivé non seulement par des considérations géopolitiques ou stratégiques, mais par la conviction que, justement, les événements au Moyen-Orient participent à l'accomplissement du retour du Christ.
Et qu'en est-il finalement de la dimension apocalyptique en Iran ?
Là, elle est évidemment beaucoup plus explicite que dans les deux cas précédents et s'enracine dans la théologie du chiisme duodécimain. Cette tradition affirme que la direction spirituelle de la communauté musulmane revient à une lignée d'imams descendants de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète et quatrième calife. Le douzième imam, Muhammad al-Mahdi, aurait disparu au 9e siècle et vivrait depuis dans un état d'occultation. Et selon la croyance chiite, il réapparaîtra à la fin des temps pour instaurer la justice universelle et vaincre les forces du mal. La révolution islamique de 79 a intégré cette attente dans son idéologie politique. Ainsi, Ruhollah Khomeini a développé la doctrine selon laquelle un juriste religieux doit gouverner la communauté iranienne pendant l'absence de l'imam caché. Certains dirigeants ont ensuite insisté davantage sur la dimension messianique de cette attente. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, influencé par le théologien radical Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, évoquait régulièrement la proximité de la réapparition du Mahdi et présentait les conflits contemporains, notamment avec Israël, évidemment, comme des signes de la phase finale de l'histoire. Même le dernier guide suprême, récemment assassiné par la coalition, Ali Khamenei, inscrivait souvent la confrontation avec les puissances adverses dans une perspective morale et eschatologique inspirée de cette tradition chiite. Un aspect distinctif d'ailleurs de la spiritualité chiite, qui renforce encore cette vision du monde, est le rôle central du martyr. Les événements qui ont façonné l'identité chiite, c'est-à-dire l'assassinat d'Ali en 661 par un Kharijite, l'empoisonnement de son premier fils Hassan en 670 et le martyr de son deuxième fils Hussein en 680 lors de la bataille de Karbala, ont établi un récit puissant de sacrifice vertueux face à l'injustice. Les commémorations d'ailleurs du martyr de Hassan et de Hussein continue de façonner la rhétorique politique en Iran et partout dans le monde chiite, où la résistance contre l'oppression perçue est souvent présentée comme une reconstitution de cette lutte tragique et sacrée. Par conséquent, la confrontation avec des adversaires puissants peut acquérir une profonde signification symbolique. Les dirigeants politiques présentent parfois les conflits géopolitiques comme des étapes d'une bataille cosmique entre la justice et la corruption, un cadre qui trouve maintenant un écho particulier dans une tradition habituée à interpréter les souffrances historiques à travers des attentes eschatologiques. Et l'assassinat du guide suprême, Khamenei, intensifiera sans aucun doute ces récits, renforçant encore la croyance selon laquelle les événements dramatiques actuels annoncent l'apparition prochaine de l'imam caché et la fin des temps. Ainsi, en résumé, l'examen de ces trois traditions révèle un phénomène assez paradoxal. Malgré leurs différences théologiques profondes, les acteurs ou des acteurs influents dans des camps totalement opposés interprètent tous les événements du Moyen-Orient à travers des récits religieux étonnamment similaires annonçant la fin des temps. Certes, alors, les différences restent importantes. Aux États-Unis, ces visions relèvent surtout de mouvements religieux influents mais extérieurs à la doctrine officielle de l'État. En Israël, elles se manifestent dans certains courants du nationalisme religieux, très présent évidemment dans le gouvernement de coalition actuel. En Iran, en revanche, elle occupe une place centrale dans l'idéologie de la République islamique. Dans ces conditions, l'escalade des tensions peut parfois apparaître, pour certains acteurs convaincus d'être du bon côté de l'histoire sacrée, non comme une catastrophe à éviter à tout prix, mais comme une confirmation possible d'un scénario eschatologique attendu. Loin d'être alors un simple affrontement stratégique, la confrontation autour de l'Iran s'inscrit donc dans un paysage imaginaire où la politique mondiale se mêle aux attentes de l'apocalypse. Et ce n'est pas très rassurant pour nous tous.
Non, effectivement. Merci David Engels pour cette chronique qui donne une nouvelle dimension et une nouvelle grille de lecture à ce conflit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Avec plaisir, à lundi prochain.
Ligne droite, l'analyse.
Et on poursuit ce matin avec Charles Danjou. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Liselotte, bonjour à tous.
Président fondateur d'Omerta Media, les auditeurs vous connaissent bien et c'est Alexandre de Galzin qui mène cet entretien.
Bonjour Charles Danjou, merci d'être avec nous ce matin. Alors le sujet dont on va parler, c'est évidemment la question de l'Iran qui fait toute l'actualité géopolitique. Premier point précisément pour raccorder directement à l'actualité, ces derniers jours, on a vu des frappes israélo-américaines qui ont été menées en réponse au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, des frappes qui ont été menées sur des dépôts pétroliers, notamment non loin de Téhéran, avec des images impressionnantes de Téhéran et alentour en flammes, et surtout ces nuages noirs, ces pluies de pétrole qui apparemment pourraient mener à de graves conséquences. En l'occurrence, est-ce que ces frappes ont eu d'abord un intérêt, ont plus un intérêt stratégique, dans le sens où supprimer le pétrole iranien, c'est empêcher les Iraniens donc d'avoir du carburant, ou alors est-ce que selon vous, ce sont plus des frappes qui sont destinées à inquiéter la population et à faire à essayer de faire tomber le régime par ce biais?
Je crois qu'il y a les deux. Il faut aujourd'hui, les Israéliens comme les Américains cherchent à toucher les infrastructures vitales de l'Iran, effectivement pour affaiblir son économie et aussi pour provoquer, je dirais, une espèce de soulèvement de la population contre le régime. Pour le moment, évidemment, ça ne marche pas. Tout le pari de Donald Trump lorsqu'il engage ses frappes alors qu'il était en négociation avec les Iraniens, c'est par des frappes massives et par l'élimination du guide suprême Ali Khamenei, c'est de provoquer un soulèvement de population et un changement de régime. Ça n'a pas marché. Donc là, ils sont dans une espèce de course à l'échalote où ils sont obligés de détruire non seulement les dépôts pétroliers, mais pas seulement, il y a aussi des usines pour la désalinisation de l'eau dans la mer Caspienne qui sont touchées, avec l'espoir, en faisant monter un peu les enchères, qu'à un moment donné, les Iraniens vont épuiser, affamés, eh bien, assoiffés, sans pétrole, eh bien, vont se retourner contre le régime. Ça provoque quoi? Ça provoque une réaction iranienne qui vise les dépôts pétroliers, les raffineries, les infrastructures, pour le moment à petite échelle. Les Iraniens pourraient faire beaucoup plus. Des pays du Golfe, raison pour laquelle ce matin encore une raffinerie, je crois, ou un dépôt pétrolier à Bahreïn était en feu. Et donc c'est une espèce de guerre du pétrole qui s'est lancée entre les deux parties. Sachant déjà que vous l'avez rappelé, que le détroit d'Ormuz est fermé et donc les conséquences sur l'économie mondiale étaient déjà perceptibles il y a une semaine, et là effectivement tout va s'aggraver.
Oui, parce que notamment, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais le prix du baril a augmenté et est passé à 108 $, il me semble, contre 80 il y a environ 2 semaines, donc une hausse quand même particulièrement significative. Mais justement, en fait il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que les Américains et les Israéliens semblent pouvoir faire tomber le, semblent penser faire tomber le régime, justement en s'attaquant presque à la population d'une certaine façon. Est-ce que ça risque pas au contraire de la souder contre les Israéliens et les Américains, et donc derrière le régime, cette population qui, je rappelle, il y a 2 mois se soulevait quand même contre ce même régime?
Alors, il y a un élément important, c'est dans la perception de Donald Trump, l'équation pétrolière de la hausse des prix, elle est perceptible à partir du moment où les États du Golfe ou les différentes puissances mondiales vont commencer à tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont autosuffisants, oui, dans la production de pétrole. Ils sont même un peu exportateurs.
Oui.
Donc, ce n'est pas un problème qui vient immédiatement, je dirais, en tête à Donald Trump. Mm. Maintenant, le soulèvement iranien n'a pas eu lieu. Mm. Le problème, c'est qu'on a de la perception de la population iranienne. En réalité, on n'en sait pas grand-chose. On en sait que ce que l'opposition veut bien en montrer et ce que relaient les médias de cette opposition, mais ce qui est largement, à mon avis, décalé par rapport à la réalité du peuple iranien.
Il faut parler de l'opposition. C'est-à-dire que là, vous parlez de l'opposition de la diaspora, qui effectivement, elle, est assez, on va dire, occidentalisée, et donc, par exemple, va soutenir le chat, enfin le fils du chat Pahlavi, qui apparemment n'est pas particulièrement plébiscité non plus par la population iranienne, peut-être par certaines parties, mais pas par toute la population. D'un autre côté, les Iraniens opposants en interne, eux, n'ont pas trop de relais de communication, et en l'occurrence, se sont quand même soulevés très massivement il y a 2 mois. Est-ce qu'ils peuvent justement changer d'avis sur l'intérêt qu'ils ont à maintenir le même régime?
Le problème, c'est que c'est un peu l'intervention israélo-américaine, elle est un peu faite à moitié. C'est-à-dire que pour réellement provoquer un changement de régime, sachant qu'une partie de ses opposants a déjà fait l'objet d'une répression dure il y a quelques semaines, il aurait fallu un soutien beaucoup plus important. Il aurait fallu des troupes au sol, il aurait fallu... Aujourd'hui, l'appareil sécuritaire iranien, l'appareil politique iranien, il est organisé, l'appareil militaire iranien, il est organisé en mosaïque. C'est pas une personne, c'est pas Ali Khamenei qui décidait de tout de manière verticale. Tout ça est organisé, il y a une hiérarchie, il y a des composantes. Tout ça, pour le moment, tient. Les gardiens de la révolution tiennent l'appareil militaro-sécuritaire. Les opposants au régime, et ils existent en Iran aujourd'hui, sont seuls. Et les Américains et les Israéliens, de leur côté, évidemment, malgré 40 militaires américains présents dans la région, sont incapables et ne sont pas prêts à intervenir au sol. C'est la seule manière qui pourrait réellement provoquer un changement de régime. Je rappelle aussi que cette expérience de changement de régime, les Américains l'ont utilisée en Irak en 2003, que ça a fonctionné parce qu'effectivement, ils ont réussi à prendre le contrôle du pays.
Oui, et c'était un régime qui était pour le coup vraiment dictatorial, enfin on va dire personnel en Irak aussi, c'est-à-dire que tout tenait autour de Saddam Hussein.
Absolument, absolument. Ce qui est très différent en Iran aujourd'hui, justement, pourquoi les Iraniens arrivent à frapper, Israël arrive à frapper les bases américaines, c'est parce qu'ils ont un fonctionnement qu'ils qualifient eux-mêmes de mosaïque, c'est-à-dire que vous avez sur tout le territoire iranien une espèce de dispersion des forces avec une autonomie de décision, une autonomie opérationnelle qui leur permet, en fait, même si la tête est décapitée, même si l'état-major est décapité, l'armée iranienne peut fonctionner. C'est d'ailleurs, il faut le rappeler, parce qu'il y a eu des frappes donc en juin dernier déjà, systématiquement, les Israéliens et les Américains décapitent les états-majors, décapitent les responsables politiques, mais ça ne provoque pas l'effondrement du régime. Ce qui veut bien dire que les Iraniens y étaient préparés et que, comme vous l'avez rappelé, ce n'est absolument pas le cas de l'Irak. Et d'ailleurs, une intervention américaine en Iran serait très différente de celle de l'Irak. Et d'ailleurs, Donald Trump, quand même dans un éclair de lucidité, parce que malheureusement il en manque dans cette affaire iranienne, l'a bien compris et a annoncé qu'il n'y aurait pas, en dehors de quelques forces spéciales, de quelques opérations spéciales, a déjà dit qu'il n'y aurait pas de troupes au sol en Iran.
Oui, mais alors ça c'est notamment parce que ça nous emmène dans d'autres considérations, mais effectivement sur la politique interne aux États-Unis, tous les Américains sont loin de soutenir ces opérations en Iran, d'autant que Donald Trump avait été élu quand même sur un programme de paix, sur un programme plutôt isolationniste. On pourrait dire, hein, c'est le MAGA et évidemment America First, donc l'Amérique d'abord. Il y a 7 militaires américains qui ont été tués à l'heure où nous parlons, dans ceux qui ont été répertoriés. Est-ce que déjà, même des pertes américaines très faibles comme celle-ci pourraient être défavorables à Donald Trump ?
À court terme, elles ne le sont pas. Maintenant, il y a un mouvement au sein des MAGA qui s'oppose effectivement à cette guerre, qui ne la comprend pas, qui pense qu'elle n'est pas fidèle, elle n'est pas conforme au programme et aux engagements de Donald Trump. Maintenant, quand on regarde un peu la manière dont les choses se sont passées, on voit qu'il y a une capacité de persuasion, certains diront manipulation des Israéliens vis-à-vis de Donald Trump.
Oui.
Avec une vision un peu messianique des choses. Et les Israéliens ont bien compris que Donald Trump est peut-être le dernier président qui peut intervenir avec autant de force, autant de virulence contre l'Iran. Mmh. Ils savent que derrière, par exemple, J.D. Vance n'est pas du tout,
bien sûr,
bien que héritier de Donald Trump, bien que ce soutien fidèle, etc., il n'est pas du tout sur la même position concernant les questions diplomatiques, en particulier concernant le Moyen-Orient. Donc, pour Netanyahou, c'est un peu un va-tout.
Il est d'ailleurs assez mis sur la touche, comme J.D. Vance, ces derniers temps. On le voit presque plus au profit de Marco Rubio, donc le secrétaire d'État à la Défense, oui, c'est ça, qui est désormais, on va dire, la figure principale de cette affaire, avec aussi Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la guerre. C'est le nouveau du département de la guerre, voilà, c'est le nouveau terme qui est employé par les États-Unis. Ce qui est assez frappant, c'est effectivement que dans toute cette opération, si on comprend bien, ce sont les Israéliens, selon les informations qu'on a, ce seraient les Israéliens qui avaient prévu dans tous les cas de réaliser des frappes, et les services américains de renseignement qui avaient dit que l'Iran riposterait en frappant les bases américaines. Donald Trump a donc voulu se joindre à l'intervention israélienne. On ne comprend pas trop pourquoi Donald Trump se met autant dans la main d'Israël sur de tels sujets.
Alors je crois d'abord qu'il y a une volonté des Israéliens qui n'est jamais d'accord entre Iraniens et Américains.
Oui.
Pour Netanyahou, je le redis, un accord c'est 3 ans, 5 ans, une nouvelle administration américaine, etc. La solution la plus simple et la plus bénéfique à l'État israélien, c'est la destruction de l'Iran, non seulement de ses capacités atomiques, nucléaires,
oui,
mais aussi militaires, et aussi d'infliger un peu une humiliation à l'Iran qui tient tête à l'État israélien. Il faut rappeler que la plupart des pétromonarchies dans le Golfe sont quand même, compréhensives, ou ne posent pas problème à l'État israélien. Le seul État, après la Syrie, et la Syrie s'est terminée, qui pose problème à l'État israélien, c'est l'Iran. Mmh. Donc, il y a vraiment cette volonté de destruction. Et j'allais dire, cette fenêtre de tir avec Donald Trump, Benjamin Netanyahou a bien compris qu'avec un autre président, ce serait plus compliqué. Il y a une autre dimension chez Donald Trump, c'est Donald Trump ne connaît pas vraiment les affaires internationales. Il a une culture, je dirais, assez limitée sur des endroits compliqués comme le Moyen-Orient et l'Iran.
Mmh.
Et je pense qu'il a, dans sa perception, il y a deux perceptions chez Donald Trump. Il y a la première, une perception qui est un peu inquiétante, c'est cette perception un peu aussi messianique et religieuse qui correspond aux néoconservateurs, c'est-à-dire aux partisans à l'extrême droite israélienne présente à Washington dans les lobbies, mais aussi aux évangéliques américains.
Oui.
Et quand on voit ces pasteurs qui mettent la main sur l'épaule de Donald Trump en oui. récitant une prière, quand on parle de choses sérieuses, de destruction d'un pays, de frappe sur les pays du Golfe, de frappe sur Israël, etc., c'est assez inquiétant parce que c'est assez irrationnel.
Alors, en fait, ce qui est assez frappant même au-delà dans cette dimension-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir une sorte de triptyque qui n'est pas forcément très compatible. D'un côté, vous l'avez rappelé, ce côté religieux, ou même Marco Rubio a déclaré, je crois, avant-hier, l'Iran était un pays satanique et donc qu'il fallait le détruire, en tout cas détruire le régime. D'un autre côté, donc cette dimension religieuse évangélique. D'un autre côté, une dimension très pragmatique et réaliste où, évidemment, vous l'avez dit, il n'y a pas de volonté de d'envoyer des troupes au sol, pas volonté non plus d'imposer la démocratie, c'est pas le projet qui est actuellement en cours par Donald Trump, qui a dit qu'en fait il voulait simplement un dirigeant qui soit favorable aux États-Unis et à Israël. Et après, il y a effectivement cette troisième dimension, on va dire plus économique, plus pétrolière. On a l'impression que tout ça ne marche pas forcément ensemble, sans compter l'impulsivité de Donald Trump. Est-ce que c'est une guerre qui finalement s'organise dans le chaos?
Je crois que dans l'esprit de Donald Trump, c'est l'autre aspect, c'est que quand Donald Trump décide ou non d'une intervention, il regarde les forces dont il dispose. Et il s'est dit qu'il disposait de beaucoup plus de forces que les Iraniens, ce qui est une réalité, qu'il avait la supériorité aérienne, qu'il avait la supériorité balistique, etc., et que l'aura des États-Unis et son aura personnelle allaient suffire. C'est une erreur, à mon avis, de Donald Trump, qui a lancé cette guerre en pensant que la puissance américaine allait provoquer un effondrement des systèmes, des structures du régime, allait provoquer un régime change, avec une population qui, dans sa tête, certainement, était prête à descendre dans la rue et aurait renversé le pouvoir. Malheureusement, toute son équation dans cette guerre, elle est basée là-dessus. Le problème, c'est que ça n'a pas marché, ou ça a marché, mais en partie. Il a décapité le régime, il a touché un certain nombre d'infrastructures, mais ce n'est pas suffisant pour provoquer un basculement. Et vraisemblablement, au moins à court terme, il n'y aura pas de basculement, parce que pour répondre à votre question précédente, on voit quand même que, et c'est le réflexe de ces populations du Moyen-Orient qui ont quand même gardé des réflexes un peu traditionnels, c'est que il y a, face à l'agression israélo-américaine, il y a une espèce de... Même si les gens peuvent être critiques du régime, peuvent ne pas adhérer à tout, etc., il y a une espèce de... Comment dire, les gens se soudent autour du régime, se soudent autour du drapeau iranien, dans leur majorité, il faut le croire, puisque sinon, les choses auraient déjà changé. Et ça, Donald Trump ne l'avait pas prévu. Il ne l'a pas prévu pourquoi ? Parce que dans sa tête, c'est... Il a compté le nombre de divisions, le nombre d'avions qu'il avait, le nombre de porte-avions. Il s'est dit, tout ça va suffire. Avec en plus, je le redis, parce que c'est Pasteur qui met la main sur Donald Trump dans le bureau ovale. Mmh. Ça veut dire qu'il y a aussi l'espèce de conviction que Dieu est avec les États-Unis et avec Israël dans cette guerre contre le Satan iranien. Et c'est peut-être aussi dans une forme d'irrationalité qui a poussé Donald Trump à une intervention qu'il pensait assez simple, assez facile. Sur le modèle de ce qu'il a fait au Venezuela, il faut dire aussi que dans la tête de Donald Trump, pour l'instant, même sur l'Ukraine, c'est une demi-victoire. Sur le reste, c'est quand même une victoire. Si demain, il décide de s'attaquer à Cuba, je dirais la proximité, les enjeux, la capacité de résistance de Cuba laissent peu de chance à ce pays pour ne pas tomber dans l'escarcelle de Donald Trump.
Justement, sur Cuba, pardon, je rebondis directement, mais si je ne dis pas de bêtises, vous venez de sortir un documentaire réalisé par Régis Le Sommier et Jonathan Alperi, donc Les Derniers Jours de Cuba, il me semble. Dans ce documentaire, alors Régis, on va dire, est parti, donc n'est pas avec nous ce matin, peut-être qu'il aurait eu une voix plus directe, mais dans ce documentaire, est-ce qu'on sent que, justement, les Cubains attendent des Américains que le régime change et pourrait justement soutenir un changement de régime, ou au contraire, est-ce qu'on observe plutôt une forme d'habitude au régime et un anti-américanisme fort ?
Il y a un peu tout ça dedans. Les Cubains sont très inquiets et en même temps, ils ont envie de conserver, leur mode de vie. Les Cubains sont des gens qui sont patriotes, donc... Ils n'ont pas envie d'être aspirés par les États-Unis. En même temps, ils ne voient pas tellement comment ils pourraient résister. C'est vrai que la situation est vraiment très différente. La proximité géographique et ils disposent de moyens de résistance qui sont extrêmement limités. Mmh. Ce qui n'est pas le cas de l'Iran. L'Iran, c'est vraiment en s'attaquant à l'Iran, Donald Trump met le doigt dans un engrenage dont il ne contrôle pas l'issue. Il faut dire aussi qu'autour de l'Iran, on ne sait pas grand-chose, parce qu'il y a une propagande, quand on traite du sujet iranien, il y a une propagande des médias occidentaux, en particulier américains, de l'armée américaine et de l'armée israélienne, qui ne montre qu'une partie des choses.
Oui.
On ne voit rien, parce que la diffusion des informations, des images est interdite en Israël et côté américain et dans les Émirats du Golfe. Donc on voit de temps en temps une base qui explose, etc. Mais en réalité, on ne comprend pas encore l'ampleur des dégâts causés par l'Iran aux infrastructures de, des Émirats arabes unis, aux infrastructures américaines dans la région, aux infrastructures israéliennes. Et ça, c'est aussi un point que Donald Trump a sous-estimé, c'est le, les capacités opérationnelles de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran a sorti là, les derniers modèles de missiles balistiques, mais elle a fait aussi un usage des drones Shahed, vous savez, ces fameux drones à 20 000 euros qu'on voit sur le théâtre russo-ukrainien avec une licence prise par les Russes qui développe ce drone. Aujourd'hui, ces drones Shahed ont causé vraisemblablement la plupart des dégâts les plus importants sur les bases américaines ont été commis par des drones Shahed. Et ça, ça n'avait pas été anticipé par les Américains qui ont dû appeler en urgence des spécialistes ukrainiens pour essayer de comprendre comment ils pouvaient stopper ces drones Shahed. Donc, tout ça, à mon avis, dépasse un peu Donald Trump. Et on ne voit pas bien comment il va en sortir. La solution peut-être la plus sage, parce qu'il y a cette hausse des prix du pétrole, il y a cette inquiétude des États du Golfe, ce serait peut-être d'expliquer que finalement il a réussi à éliminer le guide suprême, que le pays est à genoux et je dirais ramener les GIs à la maison en expliquant que l'essentiel du travail est fait. À la limite, ce serait peut-être le plus facile pour lui, le plus efficace. Malheureusement, il est parti vraisemblablement dans une guerre longue dont on voit mal comment il va sortir.
Alors justement, parlons de ce sujet. Ce qui est assez intéressant, j'allais dire amusant, mais pas du tout, ce qui est assez intéressant, c'est l'asymétrie totale des objectifs de guerre israélo-américains et iraniens. C'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement les Israéliens qui ont un objectif tout simplement d'éradiquer leurs menaces héréditaires. D'un autre côté, on a Donald Trump qui a presque plus un objectif de communication sur cette guerre en voulant pouvoir dire « je sors victorieux, j'ai atteint certains objectifs qui me permettent de dire que cette opération était justifiée ». Et en face, on a les Iraniens qui sont au contraire dans une guerre de résistance sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien que plus la guerre dure, plus ils marquent des points. Parce que ça veut dire que Donald Trump doit engager son opinion intérieure, ça signifie que, l'opinion des Américains, ça signifie également que les Américains n'auraient pas la suprématie absolue qu'ils disent avoir sur le reste du monde. Concrètement, est-ce qu'il y a une possibilité, Donald Trump a dit qu'il allait frapper encore pendant au moins 2 semaines, est-ce qu'il y a une possibilité pour que cette guerre dure réellement dans le temps? Dans le cas où les Iraniens parviendraient simplement à ne pas faire tomber le régime, simplement à résister.
Ah bien sûr, de toute façon, côté israélien, quand on reprend ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, on voit bien que l'objectif de Benjamin Netanyahou, il est double. D'abord, c'est d'éviter, il faut rappeler que Benjamin Netanyahou a des affaires judiciaires qu'il poursuive. En même temps, il veut rester dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura sauvé, qui aura réussi à sécuriser Israël. Et donc, on voit que l'objectif de Benjamin Netanyahu, c'est de détruire toutes les forces d'opposition, de résistance ou les menaces sécuritaires à l'État d'Israël dans la région. Ce qui veut dire qu'on a effectivement toute l'offensive sur la bande de Gaza. On a l'implication de l'armée israélienne dans la chute de Bachar el-Assad et dans aujourd'hui l'espèce de no man's land qui est devenue la Syrie. Et puis, il y a le gros morceau, c'est le Hezbollah libanais.
On en parle dans un instant, oui.
Et l'Iran, voilà, ce sont les objectifs israéliens. Et vraisemblablement, Benjamin Netanyahou a trouvé la façon de convaincre Donald Trump qu'il fallait qu'il s'engage, peut-être en lui expliquant que ça allait être assez facile. Et aujourd'hui, Donald Trump se retrouve un peu piégé. Il est en porte-à-faux avec une partie de ses soutiens. Il y a les midterms qui arrivent. Il y a peut-être un nombre de soldats de morts américains qui va augmenter. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas se dédire et il sortira de toute façon de cette guerre contre l'Iran la tête haute. La question, c'est qu'est-ce qu'il aura à son bilan? Est-ce qu'il aura simplement, entre guillemets, simplement l'élimination du guide et la destruction d'infrastructures militaires? Ou est-ce qu'il aura un changement de régime? Sur le changement de régime, vraisemblablement, la population, pour le moment, n'y est pas prête. Et comme vous le rappeliez, c'est un peu ces guerres d'agression... change un peu la donne parce que y a un réflexe communautaire et les Iraniens aujourd'hui, dans leur majorité, encore se soudent autour du pouvoir qui a su se renouveler, qui a renouvelé ses dirigeants, dont l'appareil militaire sécuritaire fonctionne, dont l'appareil aussi économique fonctionne. Il faut rappeler qu'à Téhéran, il n'y a pas de... Il y a des pénuries sur l'eau, l'électricité, mais il faut bien comprendre qu'il y a des gens dans le monde, c'est le problème de la vision occidentale, peut-être de la vision de Donald Trump, il y a des gens dans le monde qui sont prêts, pour résister, pour se battre, à ne pas avoir l'eau et ne pas avoir l'électricité pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Oui, ça échappe peut-être aux Américains.
Et ce qui est bête, c'est qu'ils auraient déjà pu le voir en Ukraine, où c'est déjà le cas, par exemple, depuis plusieurs années, malgré les conditions de vie qui peuvent être très très difficiles, surtout dans l'hiver ukrainien, ceux-ci restent tout de même motivés dans leur... dans leur résistance. D'un autre côté, je voudrais, évidemment, vous avez évoqué le Liban. Ça, c'est un sujet qui est quand même assez déterminant. On estime actuellement à près de 500 000 le nombre de déplacés liés aux frappes israéliennes. C'est un chiffre absolument impressionnant. Je crois que le Liban, c'est 8 millions d'habitants, si je ne m'abuse. Ou 6 millions d'habitants, pardon. En l'occurrence, ça représente donc une très grosse part de la population. Est-ce que actuellement Israël a déclaré qu'il allait occuper le sud du Liban pour faire face au Hezbollah? On a l'impression que c'est une situation qui n'en finit pas depuis le 7 octobre, où la branche armée du Hezbollah justifie son existence par le fait qu'Israël soit une menace pour le Liban, et d'un autre côté, Israël occupe le sud du Liban en le justifiant par le fait que le Hezbollah serait une menace pour Israël. Comment on peut trouver une issue à ce problème?
C'est une situation inextricable, puisque les Israéliens expliquent qu'ils vont détruire le Hezbollah, ou qu'ils vont le faire désarmer en faisant pression sur le gouvernement libanais, ce qui objectivement n'est pas possible. On voit bien que, le Hezbollah, malgré les frappes, malgré les incursions israéliennes qui ont lieu de manière répétée et très régulièrement, quasiment chaque année depuis 20 ans, le Hezbollah tient toujours et ne désarme pas. Donc, en dehors d'une solution...
Et justifie son existence, quelque part, par les incursions israéliennes.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que... Et avec un État libanais qui est impuissant, l'armée libanaise est incapable de faire respecter la souveraineté de ses frontières vis-à-vis d'Israël et est incapable de faire respecter, l'ordre en désarmant le Hezbollah. Donc, aujourd'hui, c'est une situation totalement inextricable. Avec effectivement une occupation israélienne, des destructions qui sont énormes dans le sud Liban. On voit la population. Je crois que j'ai entendu ce matin quasiment 1 million de réfugiés. On n'est plus à 500 000. Ça a encore augmenté. Et cette guerre est justifiée. Il faut le dire aussi. Tout ça est justifié au nom d'une guerre juste, comme le rappelait Bernard-Henri Lévy, ce qui veut dire que...
Je ne pensais pas vouloir citer Bernard-Henri Lévy un jour, Charles d'Anjou.
si, parce qu'il faut comprendre, il faut toujours écouter ce que dit Bernard-Henri Lévy pour savoir... Avant de se faire une opinion sur les choses.
Ouais.
Donc pour lui aussi, il y a ce concept de guerre juste, de guerre préventive, qu'on refuse aux Russes quand il s'agit de l'Ukraine, mais qu'on accepte et qu'on légitime, qu'on explique quand il s'agit d'Israël et des États-Unis, en l'occurrence avec l'Iran. Alors que, je le rappelle, il y avait un round de négociation qui se passait plutôt bien.
En Oman, oui.
Et que, effectivement, la décision de Donald Trump vient briser, jusqu'à la fin de son mandat quasiment, puisque les conséquences de cette guerre avec l'Iran, on ne les mesure pas encore bien. Il y a cette hausse du prix du baril, il y a des conséquences sur la croissance mondiale. Il y a des conséquences en cascade qu'on ne perçoit pas encore, mais qui vont être énormes. C'est une guerre régionale comme on n'en a pas connue depuis 40 ou 50 ans.
D'un autre côté, il y a évidemment la question de l'implication des puissances européennes dans cette affaire. Alors, on voit évidemment que malheureusement, la voix de la France, une fois de plus, ne pèse quasiment pas dans cette affaire. La voix d'Ursula von der Leyen, n'en parlons même pas. D'un autre côté, on observe que, par exemple, l'Espagne s'est mise en porte-à-faux volontairement avec les États-Unis en refusant que ceux-ci utilisent leur base pour justement, en opposition à cette guerre. C'est le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez qui a pris cette décision. La France, pour le coup, contrairement à l'Espagne, a réellement des intérêts et une implantation dans le Moyen-Orient qui existe depuis des décennies, notamment au Liban, mais aussi dans d'autres pays, avec, je pense, aux Émirats Arabes Unis. Comment la France peut justement permettre de défendre ses intérêts et ses alliés dans la région sans rentrer dans l'escalade, sans rentrer dans cette guerre ?
Bah, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, puisque ce qui lie la France aux pays du Golfe, c'est, enfin, un certain nombre de pays du Golfe, ce sont des accords de défense. Donc oui. Aujourd'hui, les Français, effectivement, si l'intervention française se limite à abattre des drones qui volent au-dessus des Émirats Arabes Unis, par exemple, je dirais on est dans la continuité des accords qu'on a signés. Mmh. Voilà, malheureusement, on ne peut pas faire plus que ça, et de toute façon... On sent Emmanuel Macron un peu perdu. Aujourd'hui, il est à Chypre, qui a été frappé par des missiles iraniens, parce que Chypre abrite une base militaire anglaise, je crois. Mais il ne peut pas faire. Il voudrait exister, mais il ne peut pas faire grand-chose de plus. Aujourd'hui, les Américains, les Israéliens n'ont pas besoin du soutien de la France. Ils n'en ont jamais eu besoin d'ailleurs. On est là vraiment dans du bilatéral, en dehors du droit international, en dehors des instances internationales. La voix d'Emmanuel Macron ne compte pas. Les capacités de l'armée française, sont infinitésimales par rapport à ce que peut faire l'armée américaine. Donc, Emmanuel Macron, malheureusement, est un peu spectateur de tout ça. Et là où il pourrait changer. Prendre un peu des initiatives diplomatiques, eh bien, il n'en prend pas. Il est très timoré. Certainement parce
que. C'est une position difficile. Je veux pas défendre Emmanuel Macron, mais c'est une position difficile dans laquelle on se situe actuellement. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, une guerre qui se lance sans notre consultation. Et d'un autre côté, ce devoir de défendre justement ces pays avec lesquels on est désaccord.
On se souvient quand même de l'intervention de Dominique de Villepin la veille de l'intervention américaine en Irak. Il y avait quand même il y a des dirigeants politiques qui ont la capacité, qui ont les épaules pour, prendre des initiatives diplomatiques, parler fort et parler loin. Voilà. Et structurer, rassembler des pays, des forces autour d'eux. Emmanuel Macron, je pense, malheureusement, bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais n'a pas les épaules, n'a pas l'envie, il n'a pas l'idée de proposer une alternative diplomatique entre Iraniens et Américains. Pour cela aussi, il aurait peut-être fallu qu'il ait de meilleures relations avec Donald Trump. Peut-être que Giorgia Meloni, d'ailleurs, est en meilleure position pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il manque une alternative diplomatique.
Et alors, réaliser encore un zoom. Quelle horreur. Mais par quoi on peut remplacer ça, Franck?
Focus.
Oui, un focus, oui, voilà.
Un coup de projecteur.
Un coup de projecteur, même aller un petit peu plus avant sur le microscope. En France, on voit quelque chose qui est assez particulier. C'est qu'aujourd'hui, le camp des va-t-en-guerre se situe pour le coup à droite, il faut le dire, notamment dans une certaine forme de droite pro-israélienne qui soutient de manière presque uniforme cette attaque israélo-américaine en Iran au prétexte que l'Iran serait une menace pour la France, étant donné que c'est un État islamiste. Et sur le deuxième point, c'est que effectivement, Israël serait le bouclier de l'Occident, on va dire le poste avancé de l'Occident. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions et surtout du fait qu'elles viennent de la droite?
C'est une vision assez simpliste. D'abord, il y a aussi, l'extrême gauche, la LFI. Hein. Quand on parlait tout à l'heure de Pedro Sanchez en Espagne, on est quand même sur la gauche de la gauche qui soutient le régime iranien. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a une. On peut comprendre la logique des uns et des autres. On peut comprendre la logique israélienne de frapper, de se mettre en sécurité, d'éliminer ses adversaires, etc. Il n'y a pas de problème. On peut même comprendre la logique de Donald Trump, une logique de protestants évangéliques, etc. Tout ça, en se mettant à la place des gens et en ayant un regard honnête, on peut comprendre. Ce qui est moins compréhensible, c'est de tomber dans la caricature, voire même dans le mensonge total. Quand on explique que l'Iran est une menace, que l'Iran, est une puissance terroriste qui propage le terrorisme, dans les années 80, oui, mais...
Oui, on pense au Drakkar, notamment.
Oui, mais c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'essentiel de la menace terroriste islamiste, elle est due à l'islam sunnite, elle est due à Daesh, elle est due à Nosra, elle est due à l'État islamique. Et ça, ce sont des forces sunnites contre lesquelles s'est battu l'Iran, il faut le rappeler. Donc, l'argument de dire l'Iran est une puissance terroriste qui menace la France, c'est un argument qui est malhonnête. Je crois que, bon, après, on peut choisir d'être malhonnête, mais si on regarde froidement les choses et qu'on essaie de, d'avoir justement un petit peu d'honnêteté, eh bien, on constate qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'hystérie, effectivement, à droite contre l'Iran, parfois reprend, propage des mensonges. Aujourd'hui, on peut être, encore une fois, on peut être contre l'Iran si on est israélien, mais si on est français,
mais même,
qu'on pourrait avoir une autre grille d'analyse qui corresponde davantage aux intérêts français et pas aux intérêts d'un pays étranger.
Alors ça, vous avez, on vous rejoint tout à fait là-dessus, mais d'un autre côté... Évidemment, tout le monde en France d'à peu près rationnel est opposé à l'idée d'un régime islamique, une théocratie opprime les femmes et même est une dictature, etc. Et voilà, enfin ça, j'aurais dire sur la question morale, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. D'un autre côté, est-ce que vous n'avez pas l'impression de l'émergence d'un néo-conservatisme quelque part ?
Absolument. Absolument, il y a ce... Alors, j'avais pas dit néo-conservatisme, moi je pense que les néo-conservateurs, on en a d'ailleurs fait un magazine il y a un an, sont revenus au cœur de la matrice, non seulement aux États-Unis, enfin, dans une partie de l'entourage de Donald Trump, après 10 ans, je dirais, devoir composer avec les démocrates, les durs qu'on a trouvés en Irak, les descendants de Donald Rumsfeld, Dick Cheney, etc., aujourd'hui existent, ils sont dans l'entourage de Donald Trump, effectivement, ils combattent la tendance... mené par J.D. Vance, par Tucker Carlson et par d'autres. C'est un véritable combat interne en ce moment sur cette question iranienne. Ils sont effectivement autour du président américain, mais aussi en France. Alors après, vous avez des nuances. Hein. Vous avez 50 nuances de néoconservatisme. Mmh. Vous avez ceux qui sont au Quai d'Orsay. Vous avez ceux qui sont, vous avez Bernard-Henri Lévy. Vous avez des plus durs sur des plateaux de télévision, etc. Tout ça n'est pas bon pour... je le redis, pour une analyse honnête des choses, et en fait, essaie, alors dans le cas français, de faire chausser les lunettes, de faire chausser des lunettes un peu étrangères à la politique française. Et d'ailleurs, c'est le cas pour les néoconservateurs, ça peut être le cas aussi pour d'autres causes. Il y a toute la tendance LFI aussi qui essaie d'influer, toujours à l'esprit... de promouvoir des causes étrangères qui seraient supérieures, qui seraient prioritaires aux intérêts nationaux, strictement nationaux.
Merci beaucoup Charles Lanjoux d'avoir été avec nous ce matin, justement pour cette analyse d'abord, on va dire, géopolitique et stratégique, et puis plus politique et tout aussi intéressante. Et puis on vous retrouve peut-être la semaine prochaine, à moins que Régis ne soit de retour.
Il sera rentré du terrain. Oui, il est parti quelques jours, donc il aura certainement beaucoup d'anecdotes croustillantes à vous rapporter.
Merci beaucoup en tout cas Charles Lanjoux, et tout de suite on va écouter la revue de presse de Gilles Brochard.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Liselotte, bonjour Franck, bonjour chers auditeurs. La guerre en Iran se poursuit avec ses interrogations et la question du rapatriement des Français expatriés ou de simples touristes. Pour preuve, la création d'une cellule de crise au sein d'Air France, comme le relate Le Parisien, créée depuis le 28 février. C'est dans ce bunker, ce centre de contrôle des opérations, le CCO, situé non loin de l'aéroport de Roissy et qui ouvre pour la première fois ses portes à des journalistes que la compagnie gère ses 800 à 1000 vol quotidien. 17 corps de métier accordent leurs instruments. Un écran géant montre la localisation des avions en temps réel. Le journal donne plusieurs exemples de déplacements difficiles. Samedi après-midi, la patronne d'Air France, Anne Rigel, suit pendant 4 heures la touchée, comme on dit, entre l'arrivée à vide du Boeing et son départ de Mascate, enfin chargé de ses touristes. On a appris qu'il y avait 10 bébés à bord. Notre collègue présent à Mascate est allé acheter des paquets de couches. Au Caire, on chargera des repas bébés spéciaux, informe Rosine Allenay, la directrice de la logistique du produit vol, au cours d'un tour de table virtuel. Puis enfin, l'avion finit par décoller et une dizaine d'heures plus tard, l'avion atterrit à Roissy. Bref, de sources diplomatiques, on apprend que 6 vols commerciaux devraient permettre d'acheminer des Français depuis le Golfe ce lundi. Et puis, les Libanais vivent toujours dans l'angoisse et l'incertitude. Comme le souligne l'Opinion, ce seraient 600 objectifs du Hezbollah qui ont été visés selon un porte-parole militaire israélien cité par l'AFP. L'armée israélienne y a aussi ordonné l'évacuation d'une partie du sud Liban et de la banlieue sud de Beyrouth. L'Opinion rappelle qu'au Liban, Israël a mené entre 2023 et 2024 une campagne aérienne et terrestre qui a durablement affaibli le Hezbollah. En Syrie, l'État hébreu a saisi l'occasion de la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024 pour mener des frappes qui ont détruit l'essentiel du matériel de l'armée syrienne. Bénéficiant de l'appui de Donald Trump et d'une écrasante supériorité militaire, Benjamin Netanyahou semble décidé à pousser son avantage, quitte à entrer dans une longue période de guerre permanente. Sinon, qui est le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, portrait craché de son père à la tête d'une immense fortune? Alors le Parisien dresse son portrait, second fils, 56 ans, il n'occupait aucune fonction au sein du gouvernement de la République islamique. Raconte Inès Chayeb, il agissait plutôt en coulisses en tant que gardien de son père. De son parcours, on sait qu'il a étudié sous la houlette des religieux conservateurs les plus éminents à Qom. Il détient le titre clérical de Hajjato l'Islam, un cran au-dessous du rang d'Ayatollah. Il a même servi dans le corps militaire islamique durant la dernière phase de la guerre entre l'Iran et l'Irak de 1980 à 88. Et comme on peut lire sur le site du Figaro, au sein du bataillon Habib, qui participa à plusieurs affrontements emblématiques, il a côtoyé quelques-uns des futurs cadres du régime. Il s'est notamment lié à Hossein Taeb, qui dirigea par la suite la force paramilitaire Basiji, ainsi que le service de renseignement des gardiens de la Révolution, avant d'être tué par un bombardement israélien en juin 2025. Hamad Vahidi, qui vient d'être nommé à la tête des gardiens de la Révolution, ainsi que Mohamed Badger Ghalibaf, président du Parlement, compte aussi parmi ses proches. Et désormais, Khamenei est la cible des Israéliens comme des Américains. Donald Trump rappelle encore le Parisien, ayant redit qu'il ne tiendra pas longtemps. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé dans une interview à la chaîne NBC que c'est, je cite, au peuple iranien de choisir son nouveau dirigeant. Ça ne regarde que le peuple iranien et personne d'autre. Dans le JDD, toujours en vente jusqu'à demain mardi, le cardinal Sarah s'explique sur son dernier livre, Long dialogue avec Nicolas Dia, intitulé 2050, paru chez Fayard. Si l'on parle du climat sans parler du créateur, si l'on parle de migration sans parler de dignité surnaturelle de l'homme, dit-il, si l'on parle d'exclusion sans parler du péché et de la rédemption, alors on fait de l'Église une agence morale. L'Église n'est jamais plus utile au monde que lorsqu'elle est entièrement à Dieu. Et le cardinal Guinéen ajoute, la morale chrétienne n'est pas un catalogue d'interdits, elle est la traduction concrète d'un mystère. Dieu a créé l'homme, Dieu l'a racheté, Dieu l'appelle à la sainteté. Pour lui, dans une vision sans doute conservatrice, il met en garde et remet Dieu au cœur de son discours. L'Occident a été blessé par un orgueil particulier, confie-t-il, celui de se croire adulte au point de ne plus avoir besoin de Dieu. Il a remplacé l'héritage par la suspicion, la tradition par le soupçon, l'autorité par la contestation permanente. Nous avons reçu la foi comme un trésor. On ne modernise pas un trésor. On le garde, on le transmet, on le fait fructifier. En Occident, on veut négocier la foi. En Afrique, on la reçoit. Voilà, à lire dans le JDD. Et puis, je vais terminer par l'entretien qu'a donné Alain Finkielkraut à l'Express à l'occasion de l'apparition de son livre « Le cœur lourd » écrit avec celui qui l'interviewe, Vincent Trémollet-Villers. Il se déclare volontiers comme un socialiste, conservateur et libéral avant de s'exclamer « Je suis étonné que la gauche française ne prenne pas exemple sur la gauche danoise. Il faudrait que la refondation de l'école et la maîtrise des flux migratoires deviennent des causes nationales, c'est-à-dire transpartisanes. » C'est la seule manière de sauver la France. Et à la question de Sébastien Le Foll, vous vous dites encore européen? Il répond, européen, celui qui a la nostalgie de l'Europe. disait Kundera. Je reprends à mon compte sa définition. Et puis, il termine par ces mots. Il faut être capable d'affronter le présent dans sa nouveauté. Et il y a des jeunes démons piaffant d'innocence, des jeunes démons qui ne sont pas racistes, mais antiracistes. Et c'est cela qui met en péril les Juifs dans tous les pays occidentaux. Les Israéliens, quand ils voyagent, n'osent plus parler hébreu. Dès qu'ils le font, ils sont agressés. On en est là aujourd'hui. Alors, il faut être à l'heure. Voilà. À lire dans l'Express. À demain.
Zone libre.
Et on poursuit avec Richard De Cesse pour cette zone libre. Encore 1:20 avec vous, chers auditeurs, en tout cas sur YouTube et sur X.
Alors, la zone libre, c'est avec Matignon qui a décidé d'engager les Français à voter. Et pour rien de tel pour voter que d'aller les alpaguer sur Le Bon Coin, Tinder et WeWard. WeWard, c'est une application qui permet de gagner de l'argent en marchant. Voilà, si vous êtes fauché en France, vous abonnez à WeWard, vous marchez et vous finissez par récolter de l'argent en ayant marché jusqu'à vous épuiser. On a l'impression de se retrouver dans les années 30 aux États-Unis avec les marathons de la danse où celui qui avait réussi à se dandiner pendant 24 heures finissait mourant sur le sol du dancing. Et là, pour un dimanche engagé, enfilez vos baskets et allez voter à pied. Et voilà, et c'est, y a 500 000 euros quand même que le gouvernement a mis dans la chose. Blablacar, Le Bon Coin, Lime, Bolt. Les gens se disent, c'est formidable, on va réussir à aller voter. Dans les sondages, la progression attendue apparaît particulièrement marquée parmi les électeurs de plus de 65 ans, dont l'intention de vote atteindrait 72%. Et donc, on sait que les vieux vont aller voter, mais pour les jeunes, c'est pas certain. Et donc, pour ça, il est absolument nécessaire que le gouvernement dépense quelques centaines de milliers d'euros pour encourager les gens à aller voter. 26% de nos utilisateurs ont moins de 30 ans, souligne Tanguy de la Ville Georges, cofondateur de WeWard. Notre plateforme peut donc permettre de toucher une autre audience que celle des médias traditionnels, parce qu'évidemment, quand on a moins de 30 ans, on n'écoute pas France Télévisions, on vient plutôt sur Radio Courtoisie ou sur le YouTube de Radio Courtoisie ou sur le X de Radio Courtoisie. Le phénomène est encore plus marqué sur Tinder, où plus de la moitié des utilisateurs ont entre 18 et 25 ans. Beaucoup voteront pour la première fois. Et ben voilà, n'hésitez pas, branchez-vous sur toutes les applis de naze pour pouvoir recevoir les bons conseils du gouvernement.
Ouais. Si vous votez, peut-être qu'un jour, votre argent servira à autre chose que financer ce genre de projet. Merci, Richard De Cesse. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur YouTube et sur X. Je vous rappelle que la radio a besoin de vos dons. Promis, on ne vous enverra pas de message d'alerte sur vos applications. Mais quand même, l'urgence est là quand même.
Voilà, s'il vous reste un petit peu d'argent ou si vous avez consacré une partie de votre budget à une bonne cause, eh bien, consacrez-la à Radio Courtoisie qui défend vos idées chaque matin, chaque journée, chaque nuit. C'est sur soutenir.rc.fr que vous pouvez faire ce généreux geste. Soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance à tous.
Merci d'avance et on poursuit sur la bande FM et sur rc.fr. Tout de suite, Rassembler les droites, le véritable défi pour Dunkerque, c'est avec Adrien Nave.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on débute avec Adrien Nave, candidat au municipal à Dunkerque sous l'étiquette du défi dunkerquois. Bonjour Adrien Nave, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonjour, oui, très bien.
Alors, petite mise à jour, puisqu'on vous avait déjà reçu à notre antenne, Richard De Cesse également, je crois, dans son émission du soir, mardi soir, Restons Courtois. Chers auditeurs, si vous ne la connaissez pas, écoutez la radio le mardi soir. Et donc, vous étiez candidat pour les municipales à Dunkerque, sous l'étiquette du Rassemblement National. Il y a eu un peu de changement. Alors, avant de se pencher sur votre programme, et ce sera bien le plus intéressant, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots pourquoi ce changement et pourquoi donc vous engager sous cette étiquette du défi dunkerquois désormais?
Oui, effectivement, du changement depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Aujourd'hui, étiquette défi dunkerquois, puisque le 25 février, j'ai demandé au Rassemblement National de me retirer l'investiture pour ces élections municipales. Il faut savoir que ça fait depuis plusieurs années, et particulièrement depuis 2025, que mon délégué départemental, Sébastien Chenu, pratique envers ma personne un véritable harcèlement pour placer un proche à lui aux élections municipales à Dunkerque. Harcèlement qui s'est traduit par une mise sous tutelle de ma campagne qui n'était plus acceptable au final. Et donc, j'ai demandé à la direction du Rassemblement National de me retirer l'investiture parce que je ne pouvais plus travailler avec un, un délégué départemental qui ne respecte pas l'engagement de terrain et l'engagement, mon engagement sur le Dunkerquois.
Alors, ce qui a été présenté dans la presse, et on vous donne aussi l'occasion donc d'y répondre, c'est que le Rassemblement national se serait séparé de vous en découvrant que parmi vos collaborateurs se trouvait un membre de l'Action française. Pareil, voilà, est-ce que vous pourriez répondre à ces articles qui mentionnent ce fait ?
Oui, bah pour, tout ça est un prétexte. Je pense que nombreux en France sont ceux qui connaissent l'attitude de Sébastien Chenu quand on n'est pas d'accord avec lui, pratique du harcèlement, et puis après, il dénigre quand quelqu'un ose s'opposer à lui. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui par communiqué de presse. Malheureusement, je n'ai pas le même poids médiatique que lui, donc quand Sébastien Chenu prend la parole, forcément, les médias se servent de ses dires sans forcément avoir de contradicteur en face. Et donc, je n'ai malheureusement pas eu le droit d'avoir la contradiction, et donc vous me le permettez aujourd'hui et je vous en remercie. C'est malheureusement le cas de Sébastien Chenu à mon encontre et se répète dans beaucoup de villes en France. Il a même été jusqu'à me reprocher d'avoir reçu Alice Cordier sur Dunkerque pour le collectif Nemesis. On en parlait justement tout à l'heure. Nous avons sur Dunkerque, nous, eu le plaisir de la recevoir pour une conférence. Il m'a fait ce reproche. Donc, vous voyez, toutes ces petites choses. Donc aujourd'hui, Antoine, qui est un Dunkerquois et qui est sur la liste, notre liste aux élections municipales, sert de prétexte pour retirer le soutien du RN.
Bon, alors par ailleurs, vous continuez de travailler avec Antoine Grosjean, donc ce militant de l'Action française, et donc c'est une façon pour vous aussi d'affirmer qu'à droite, on peut tout à fait travailler avec une partie plus militante, de militants de terrain, dans une certaine mesure. Encore une fois, il ne s'agit pas de le faire aveuglément, mais en l'occurrence, certaines personnalités peuvent être tout à fait correct, engagé, avec des valeurs qui correspondent au combat de beaucoup de Français. On voit que le Rassemblement national a parfois un peu de pudeur, si ce n'est même peur, de se lancer là-dedans, là où la gauche, elle, le fait sans complexe depuis des années. Vous assurez donc quand même aussi un tournant dans cette posture vis-à-vis de la droite militante en dehors du cadre institutionnel.
Oui, et puis je suis très fier d'avoir pu sur Dunkerque réussir l'union des droites et même de tous ceux qui veulent lutter face à l'alliance macroniste-communiste sur Dunkerque, puisque aujourd'hui le maire sortant s'est allié avec une partie de macronistes et des communistes, donc il a eu un blougi-blouga tout à fait horrible. Et donc nous, en contrepartie, nous avons ici l'alliance l'union des droites avec des LR, avec des UDR, avec des gens de chez Marion Maréchal, également avec Antoine, qui est un Dunkerquois, qui s'est investi dans la campagne des élections municipales. Et donc, nous avons autour de cette liste Le Défi Dunkerquois réussi à rassembler une très large majorité de Dunkerquois qui ne veulent plus du représentant d'Emmanuel Macron sur Dunkerque.
Alors, c'est pour ça que voilà, c'était le titre de notre entretien. Est-ce que le véritable défi pour Dunkerque, c'est pas finalement ce rassemblement des droites? On en parle beaucoup maintenant depuis quelques années, notamment depuis les dernières législatives. C'est une question qui se pose systématiquement à chaque élection. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que ce rassemblement des droites que vous visez, Adrien Nave, il a des chances de remporter les municipales?
Oui, Dunkerque est une terre de droite. Elle a été longtemps dirigée par M. Prouvoyeur, qui était de droite, avant l'arrivée de Michel Delbarre, socialiste, qui a réussi à prendre la mairie. Je pense que cette union des droites est aujourd'hui nécessaire sur Dunkerque, puisque c'est un territoire de droite. Alors, peut-être que ce ne sera pas suffisant. C'est pour ça que je vous ai dit également qu'il fallait unir l'ensemble des patriotes et des bonnes volontés sur Dunkerque, peu importe, j'ai envie de dire, l'origine électorale des électeurs. C'est cette grande union autour de cette liste de droite qui fera, pour moi, je pense, la différence, puisqu'encore une fois, le maire macroniste de Dunkerque, lui, a décidé de s'allier avec les communistes, les socialistes et les gens d'horizon et du Modem.
Tout pour essayer de faire face à la droite qui, effectivement, monte dans l'esprit et le cœur de beaucoup de Français, Adrien Nave. Et c'est précisément la raison pour laquelle on imagine que le fait que vous n'ayez plus l'étiquette Rassemblement National, finalement, ça ne sera qu'un accroc dans cette campagne, puisque aujourd'hui, ce que veulent les gens, ce sont des mesures concrètes, ce sont des personnes engagées sur le terrain. Vous l'avez dit, vous êtes Dunkerquois depuis des années, et finalement, peu importe l'étiquette, Je veux dire, il y a même un certain dégoût de la politique qui pourrait venir, voilà, finalement rendre cette décision assez peu importante, donc décision du Rassemblement national. Aujourd'hui, voilà, concrètement, vous, pour Dunkerque, quels sont vos grands axes, si demain vous étiez élu, quels sont vos grands axes d'amélioration et de changement ?
Alors vous l'avez dit, Dunkerquois est fier de l'être. La première proposition que nous faisons sur Dunkerque, c'est la création d'un parc à thème, à l'image de ce qui se fait en Vendée avec le Puy du Fou. Nous avons sur Dunkerque un territoire portuaire et industriel avec ArcelorMittal, qui est la plus grande usine du Dunkerquois, 2500 emplois directs. Nous voulons, nous, diversifier l'offre économique du Dunkerquois avec la création de ce parc à thème. Dunkerque a une histoire très riche, la Flandre d'une manière générale a une histoire très riche, nous sommes fiers de cette histoire et nous souhaitons la mettre en valeur. Aujourd'hui, le Puy du Fou, c'est 2500 emplois directs, c'est 5000 emplois indirects, c'est 250 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. Nous avons sur Dunkerque les moyens de faire la même chose et de profiter du rayonnement et de notre histoire pour pouvoir diversifier l'offre économique du Dunkerquois.
Alors, un aspect très culturel. Vous savez, il y a beaucoup de Français aussi qui aujourd'hui se préoccupent des questions sécuritaires et donc économiques. Sur ce premier aspect sécuritaire, quelle est la situation à Dunkerque et comment est-ce que vous pourriez améliorer concrètement la vie des Dunkerquois ?
Oui, sécurité, mais d'une manière générale, comme partout en France, Dunkerque n'est pas épargné par une hausse de l'insécurité, particulièrement du fait de la présence de clandestins sur le littoral dunkerquois qui tentent de rejoindre l'Angleterre. Souvent, dans les médias, vous avez pu voir malheureusement les méfaits de cette immigration clandestine, que ce soit le caillassage de voitures, que ce soit les dégâts dans les serres des horticulteurs au quartier de Rosendal. Il y a tout un tas de dégradations qui sont effectuées par cette immigration clandestine, qui n'est pas une richesse malheureusement pour le territoire ni pour la France. Et donc, c'est le premier point, c'est de dire qu'en tant que maire de Dunkerque, nous allons travailler et faire un lobbying très puissant auprès de l'État pour qu'il cesse cette immigration clandestine. Et puis après, il y a évidemment l'insécurité de tous les jours, l'augmentation des délits, des faits de délinquance. Et donc là, pareil, nous allons renforcer les moyens qui seront alloués à la police municipale et demander le renforcement des moyens de la police nationale. Dunkerque, je vous l'ai dit, c'est un port. Donc, à ce titre, c'est une porte d'entrée pour le trafic de drogue. Et c'est pareil, il faudra y mettre les moyens. Augmentation des effectifs de la brigade cynophile, création d'une brigade motorisée pour la police municipale. Il faut que les policiers puissent être réactifs à la demande des habitants et intervenir rapidement lorsqu'il y a un problème qui intervient dans un quartier.
Et ensuite, le dernier volet, encore une fois, économiquement, c'est le stress de beaucoup de Français aujourd'hui, parce que vous nous parlez de tous ces projets, on imagine que ça va coûter de l'argent. Comment est-ce que vous comptez les financer, notamment par exemple ce parc dunkerquois pour faire rayonner votre culture locale, Adrien Nave?
Alors aujourd'hui, la communauté urbaine de Dunkerque est endettée à plus de 1,5 milliard d'euros. Ça, c'est le bilan du macroniste maire de Dunkerque en 10 ans seulement. En 10 ans, plus de 50% de dettes supplémentaires. Évidemment, il y aura une gestion rigoureuse des deniers publics. On va effectuer un audit des finances des collectivités. Et puis, nous allons faire la chasse à toutes ces dépenses farfelues comme les aides aux pays étrangers comme Gaza, etc. Pour le parc à thème, c'est évidemment de l'argent privé. La collectivité sera un facilitateur, un accompagnateur de ce projet. Nous serons évidemment porteurs pour mettre en place les conditions pour les investisseurs privés de pouvoir venir sur le Dunkerquois et de mettre en place ce parc à thème. Et puis, il y aura tout un tas d'économies. Je pense par exemple à la suppression du parc éolien en mer au large de Dunkerque qui va ravager la façade maritime puisque Dunkerque, malheureusement, va se retrouver avec 46 éoliennes implanté sur sa façade maritime, une volonté là aussi du maire de Dunkerque. Nous souhaitons, nous, y mettre fin. Et voilà, ça coûte des milliards d'euros, ça défigure le paysage. C'est malheureusement implanté sur une zone Natura 2000, donc ça va détruire la faune et la flore de notre littoral. Donc voilà, des choix de bon sens et évidemment une gestion saine.
Alors, vous me tendez une perche, Adrien Nave. Souvent, on accuse la droite d'être assez peu préoccupée par les questions environnementales. Et pourtant, voilà, ça compte aussi pour les Français d'avoir un beau cadre de vie dans lequel vivre et donc éduquer même ses enfants, etc., s'installer. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, pour Dunkerque, sachant qu'il y a un défi de taille, vous l'avez rappelé, c'est quand même une zone portuaire, donc avec tout ce que ça pose comme problème à ce niveau-là.
Alors, mieux vivre à Dunkerque. Aujourd'hui, effectivement, les conditions du bien vivre à Dunkerque ne sont pas réunies. On peut faire mieux, nous allons faire mieux. Dans notre programme, nous avons 110 propositions pour changer Dunkerque. Ces 110 propositions, effectivement, il y a une part de culture, une culture que nous avons malheureusement trop souvent laissée à la gauche et pour laquelle il faut aussi faire entendre notre voix. Vous l'avez dit, une part d'écologie avec le verdissement de notre ville, l'arrêt du tout béton à Dunkerque, puisque Dunkerque est en train de se bétoniser massivement avec l'arrivée de grandes tours également. Donc ça, nous souhaitons, nous, arrêter cette bétonisation de Dunkerque et dans les nouvelles constructions, faire preuve d'utilisation des matériaux historiques du territoire, comme la brique rouge, revenir aux sources historiques et utiliser les matériaux de construction qui sont l'identité de notre territoire. Nous avons des propositions, vous l'avez dit, en matière de sécurité. Et puis, notre proposition aussi en matière de pouvoir d'achat, c'est la mise en place du remboursement des licences sportives pour les familles, particulièrement pour les jeunes, donc de 6 à 12 ans, qui vient remplacer finalement le passe-sport qui a été supprimé par l'État. L'objectif, c'est que quand un parent inscrit son enfant dans un club de sport, la ville ou la collectivité vienne derrière rembourser cette licence. C'est bon pour le pouvoir d'achat, surtout quand vous avez plusieurs enfants et que derrière, vous devez faire face au coût des équipements qui augmentent.
Écoutez, Adrien Nave, on va suivre tout cela de près, on va continuer à surveiller votre campagne. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que donc vous réussissiez à rassembler les Dunkerquois autour de cette idée du rassemblement des droites. Et puis voilà, on voit que votre programme est quand même bien ficelé, donc avec ou sans le Rassemblement National, on imagine que vous pourrez, en tout cas ce qu'on vous souhaite, essayer de faire avancer tous ces progrès pour Dunkerque, et si ce n'est pas en tant que maire, pourquoi pas au sein du conseil municipal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bon courage pour cette dernière ligne droite. Et puis on vous réinvitera pour commenter les résultats, si vous le voulez bien.
Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Bon courage.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette matinale avec nous. C'était la première de la semaine, on va poursuivre avec vous. Mais je vous le rappelle, si vous voulez que ça continue, eh bien il faut donner à la radio.
Radio Courtoisie a besoin de vous. Radio Courtoisie est une radio libre, totalement indépendante. Elle ne dépend d'aucun financier, aucune subvention, enfin aucun financier, sauf ses auditeurs qui sont les seuls financiers de la radio. Alors rejoignez la grande famille de Radio Courtoisie si vous nous écoutez régulièrement sans participer à l'effort de guerre. C'est sur soutenir.rc.fr que ça se passe, soutenir.rc.fr pour faire un don à la radio et nous permettre de poursuivre. Merci d'avance.
Merci d'avance, chers auditeurs. Quel est le programme de la journée, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques secondes. Le Français en partage, dirigé en direct par Albert Salon. À midi, le libre journal de l'école de Florence Leroux et Hervé Roland. Aujourd'hui, renouveler les écoles catholiques, la pédagogie Jean Quiry et la convention des écoles libres. À 14h, la gauche comme nouvelle religion dans le libre journal de Lumière de l'Espérance, rediffusion de l'émission d'hier, dirigée par Michel Viau. 16h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 16h30, en toute bonne foi de France Andrieux pour le parcours d'un catéchumène, joies et découvertes, première partie. 17h, culture et politique de Richard Haddad et Pierre-Henri. 17h30, Restons Courtois, dirigé aujourd'hui par Pierre-Alexandre Bouclet, qui nous propose un entretien avec Stéphane Courtois. Pourquoi l'extrême gauche est-elle violente par nature? Et puis les sujets de la réinformation. Enfin, à 19h30, le libre journal du lundi soir, dirigé par Richard Decaize. Quant à la soirée musicale de ce soir, elle sera présentée par Stéphane pour Richter et les œuvres de Beethoven au programme. Voilà, vous savez tout.
Un beau programme. Et demain, je vous l'annonce, chers auditeurs, on reçoit Florian Philippot. Donc soyez au rendez-vous à 7h. Bonne journée.
Bonne journée.